Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. L'élection du président américain est devenue au fil des années une élection mondiale. Pourquoi ? Comment ? Le monde est-il vraiment devenu un monde unipolaire avec les États-Unis pour seul pôle de puissance ? Et dans quel état George Bush laisse-t-il ce monde après 8 années à la Maison-Blanche ? Pour répondre à ces questions et plusieurs autres, Charlotte Lepris, chercheur à l'IRIS et auteur de 50 idées reçues sur les États-Unis. Bonjour Charlotte Lepris.
Bonjour.
Karim Émile Bittard, également chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales Stratégiques. Bonjour Karim Émile Bittard.
Bonjour.
Richard Birdsworth, professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste de politique globale. Bonjour Richard Birdsworth.
Bonjour.
Et enfin, par téléphone, Jonathan Weiss, professeur à Colby College, une université américaine située dans le Maine. Bonjour Jonathan Weiss.
Bonjour.
L'élection américaine, une élection mondiale. On retrouve l'idée dans le premier chapitre de votre livre, Charlotte Lepris, commentaire.
C'est vrai que cette élection est assez particulière parce qu'on sort de 8 années de George Bush qui laisse le monde dans un état... La façon dont il laisse le monde est assez critiquée. La politique de George Bush a été beaucoup décriée ces derniers temps et on attend énormément de changements. Donc cette élection passionne le monde et la personnalité des candidats vient rajouter l'intérêt à cette élection. Les États-Unis sont la première puissance mondiale et le fait qu'il y ait un changement à la tête de ce pays aura des implications pour le reste du monde de toute façon.
Est-ce qu'on a conscience, Jonathan Weiss, de l'impact de cette élection américaine à l'extérieur des États-Unis?
Je pense que oui. Je pense par exemple qu'en Afrique, dans le tiers-monde, la possibilité qu'un noir, ou on dirait un métis, mais pour les Américains c'est un noir, d'origine afro-américaine, enfin d'origine africaine d'ailleurs, kenyane, qui soit président des États-Unis, je crois que ça, pour le symbole, va être très 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 important.
On est d'accord sur ce symbole, mais est-ce qu'on a aux États-Unis conscience que dans le monde, ces élections américaines ont une énorme importance ?
Ah oui, tout à fait. Je crois que les Américains, même s'ils sont préoccupés par la situation économique de leur pays, je pense que là, ils sont tout à fait conscients maintenant, surtout ceux qui se tournent vers l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui vont voter pour Obama, parce que je pense que ceux qui vont voter pour McCain sont peut-être moins tournés vers l'extérieur, ils sont tout à fait conscients de ce que ça représente au niveau mondial.
Karim Émile Bittard, ces élections américaines, des élections mondiales, on suit ces élections année après année, ou en tout cas échéance après échéance, tous les 4 ans, mais on a vraiment l'impression que ça prend aujourd'hui une importance jamais égalée.
Tout à fait. Cela crée également un ressentiment à travers le monde, parce que c'est un peu notre président à tous, le président des États-Unis, et tous nos destins vont être affectés par cette élection. Et je crois que l'une des raisons profondes de cet anti-américanisme que l'on voit parfois surgir, c'est le sentiment qu'ont les gens de par le monde, en Afrique, au Proche-Orient, en Amérique latine, que leur destin est aujourd'hui un peu entre les mains de tous les Joe le plombier de l'Ohio, de la Pennsylvanie, de Floride, de ces quelques États clés. Ils suivent les élections de très près, tout en ayant un sentiment d'impuissance, parce qu'ils savent que des décisions fondamentales vont être prises qui les concernent dans leur vie de tous les jours, qui concernent leur avenir, leur pays, et qu'ils y sont tout à fait étrangers, puisque bien que ce soit une élection mondiale, le droit de vote est réservé aux Américains.
Richard Birdsworth.
Oui, c'est un monde globalisé, et dans un monde globalisé, c'est clair que, comme a dit Catherine, la première puissance mondiale va avoir un effet énorme sur tout le monde. Je crois que simplement, la question, c'est quand est-ce que cette puissance va maintenant orienter sa puissance pour la décennie à venir. Et toute la question, c'est effectivement que ce ressentiment baisse et que les États-Unis commencent à diriger bien le monde.
Alors Catherine, c'était Charlotte Lepris dont vous parliez à l'instant. Jimmy Carter, ancien président démocrate des États-Unis, a qualifié George Bush de pire président des États-Unis. Double question, George Bush laisse-t-il les États-Unis dans un état bien pire que lorsqu'il a pris la succession de Clinton en 2000, et est-ce que la présidence Bush a causé beaucoup de dégâts dans les relations internationales, et si oui, lesquelles? Je vous pose la question à vous d'abord, Jonathan Weiss, qui est un peu loin.
Je crois qu'il y a lieu de voler de la question. D'abord, pour les États-Unis, enfin l'État économique, bien évidemment, est pire. L'État, pour ce qui est des libertés et des droits civiques, est pire. Pour ce qui est du niveau international, ça dépend à qui vous posez la question. Si vous posez la question, par exemple, à les Irakiens, peut-être qu'ils vont répondre massivement que la situation est pire après George Bush qu'avant. Alors que je ne sais pas si la même question aurait le même sens, par exemple, pour des Lettons, des Lituaniens, des Polonais, par exemple, ou même des Géorgiens. Je crois que ça dépend un peu de la région où vous posez la question.
Charles Lepris.
Pour les Américains, il est vrai que bon, voilà, la cote de popularité de George Bush qui n'a cessé de baisser et c'est l'une des plus basses cotes de popularité qu'un président ait jamais eue. Et il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est vrai que la crise économique vient dépasser toutes les critiques. C'est là vraiment le point.
C'est le bouquet.
Exactement. C'est le bouquet final de la présidence Bush, finir par une crise économique avec des millions de gens qui perdent leur maison, qui perdent l'argent qu'ils avaient mis de côté. C'est vrai que ça laisse vraiment une image de l'administration Bush et de la présidence Bush assez basse.
Karim Émile Bittar, ce sont finalement les attentats du 11 septembre 2001 qui ont véritablement poussé George Bush vers une politique étrangère qui s'est révélée pour le moins hyper interventionniste. Est-ce qu'elle constitue, cette politique étrangère, une rupture avec les idées et les pratiques des prédécesseurs de George Bush ?
Alors tout à fait, les événements du 11 septembre ont été, comme vous l'avez dit, une rupture, parce qu'il faut rappeler que George Bush s'était fait élire en 2000 sur une plateforme beaucoup plus modeste. Il disait vouloir faire preuve d'humilité en matière de politique extérieure, il disait vouloir faire preuve de conservatisme compassionnel en politique intérieure, et tout cela est parti en fumée avec les tours du 11 septembre. Alors est-ce que c'est une rupture ou une continuité par rapport à la politique précédente ? Je pense pas qu'on peut parler de véritable rupture. Il y a eu une persévérance dans la démesure. L'Amérique est arrivée à une époque de son histoire où, comme tous les empires, on se heurte à ce que tous les empires sont passés par là, l'hubris, la démesure, une certaine ivresse du pouvoir, une certaine griserie. Et on peut parler, certains politologues ont parlé de surextension impériale, imperial overstretch. C'est également les risques auxquels sont confrontées les grandes puissances à travers l'histoire. C'est le risque de l'hubris, le risque de cette surextension impériale, et le risque dont a parlé Jonathan Weiss sur les libertés civiques à l'intérieur, parce qu'aucun pays ne peut être à la fois une république et un empire. Déjà, Mark Twain avait dit ça il y a un siècle. Lorsqu'on veut être un empire à l'extérieur, on a très vite tendance à réprimer les libertés civiles de ses propres citoyens, et ça devient extrêmement difficile de demeurer une démocratie ordinaire avec des lois comme le Patriot Act, tout en exerçant un empire à l'extérieur. Donc, pour revenir à votre question, vous aviez cité Jimmy Carter disant que Bush était le pire président de l'histoire. Il faut dire qu'il y a également un magazine américain, un magazine spécialisé, qui a interrogé près de 500 historiens. Et ils ont été quand même 93% à valider ce jugement, disant que c'était le pire des 47 présidents. Et en s'appuyant sur des critères très précis, des critères militaires, économiques et des critères quant à l'influence. Donc on peut parler incontestablement d'un déclin américain, d'un déclin économique, d'un déclin de l'hyperpuissance militaire malgré le budget considérable consacré aux armées, un budget de 450 milliards par an. On voit que l'armée américaine est quand même en difficulté face à quelques dizaines de milliers de talibans en Afghanistan et face à quelques dizaines de milliers d'insurgés en Irak.
Le déclin américain, on en reparlera un petit peu plus tard. Richard Bordsworth, la politique étrangère américaine a toujours été marquée par deux grandes tendances, le réalisme et l'idéalisme. Est-ce que la politique de Bush vous semble pouvoir rentrer dans l'une ou l'autre de ces deux cases ?
Oui, je dirais de manière très claire qu'en fait, la doctrine de Bush depuis 2002, après 11 septembre, c'était pas le cas, comme a dit Karim au début, il était beaucoup plus humble par rapport à la politique étrangère depuis 2002, après 9 septembre. C'est une politique idéaliste qui a été conçue pendant les années 90 par les néoconservateurs. Des gens comme Fukuyama, Kristol, et des personnes très importantes comme Rumsfeld, Wolfowitz. Ça, c'est une politique idéaliste dans le sens où, comme a bien montré la doctrine Bush, on avance la liberté prime sur toutes les autres valeurs, et c'est une valeur américaine. Et ça, c'est le côté moralisateur de la politique étrangère de Bush. On avance la démocratie, donc d'où démocratisation, et on dit simplement la manière de faire face au terrorisme mondial, c'est d'avancer la démocratie de manière unilatérale, c'est-à-dire sans vraiment alliance avec les autres. Alors tout ça, c'est une doctrine idéaliste. C'est pas réaliste, c'est pas en coopération avec les pouvoirs politiques ailleurs, et c'est pas fait avec un grand respect d'autrui, comme on a vu par rapport à la France et l'Allemagne pendant la guerre d'Irak. Donc pour moi, c'est complètement idéaliste, et maintenant la question, c'est d'avoir une politique plus réaliste, mais toujours avec un côté idéaliste, parce que l'ambition politique reste. C'est très important par rapport au monde.
Donc, réalisme, idéalisme, Charlotte Lepris.
L'idéalisme a été un peu perverti. C'est vrai que à la base, l'idéalisme, c'est vouloir répandre la démocratie, la liberté et la paix dans le monde. Ce qu'il y a, c'est que l'administration Bush a voulu le faire, mais par n'importe quel moyen, la force compris. Donc, imposer la liberté, imposer la démocratie. Est-ce que la démocratie est le meilleur système? Est-ce qu'on peut imposer la démocratie à d'autres pays? C'est quand même une question qui n'a pas vraiment été posée. On essaye d'appliquer un schéma. Les Américains considèrent que leur système politique leur a bien réussi. C'est un système qui fonctionne assez bien, la démocratie. Et donc, tous les pays devraient en bénéficier, sans se poser vraiment la question de est-ce que ces pays sont faits aussi pour accepter la démocratie.
Un commentaire, Jonathan Weiss?
Oui, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec mon collègue américain sur l'idéalisme de Bush. Je pense qu'il y a des intérêts stratégiques qui entrent en jeu. Et il me semble aussi qu'il y avait un effort très concerté de promouvoir l'influence américaine au Moyen-Orient. Et en fait, l'Irak devait être la clé de voûte de cette nouvelle politique qui, à mon avis, était moins inspirée par un désir de démocratiser la région que par un désir de promouvoir les intérêts américains.
Karim Bitar.
Oui, alors je crois que ces deux visions ne sont pas contradictoires, parce qu'il y a plusieurs sens au terme idéalisme. Alors en sciences politiques, on a tendance à opposer d'un côté la réelle politique, c'est-à-dire ceux qui se focalisent sur les intérêts stratégiques, qui considèrent que le monde est un grand échiquier sur lequel il faut placer ses pions. Et d'un autre côté, ceux qu'on appelle les idéalistes, entre guillemets, ce sont ceux qui cherchent à étendre la démocratie, mais pas forcément dans le cadre d'un certain idéalisme, comme on a pu le voir ces dernières années. Les deux courants s'inscrivent en fait dans une tradition américaine assez ancrée, qui est la tradition wilsonienne du président Wilson, qui après la Première Guerre mondiale avait essayé de lui aussi de répandre la démocratie. Seulement voilà, il y a des Wilsoniens de droite et il y a des Wilsoniens de gauche. Donc George Bush et les gens qui l'entourent font partie de cette école que Joseph Nye appelle les Wilsoniens de droite, c'est-à-dire les néoconservateurs.
Qui étaient des Wilsoniens de gauche, qui se sont transformés.
Qui sont souvent passés de l'extrême gauche jusqu'à cette droite assez radicale. Et il y a une autre tradition Wilsonienne qui est également celle de Bill Clinton, qui est une tradition des Wilsoniens de gauche qui pensent que oui, il faut promouvoir la démocratie, mais sur les bases d'un multilatéralisme bien compris, sans l'exporter à coups de canon, mais en incitant progressivement les différents pays à s'orienter vers une voie démocratique.
Alors, il y a une constante dans la politique étrangère américaine, c'est l'idée de la supériorité et de l'exception des États-Unis. D'aucuns disent ainsi que la politique de Bush, finalement, ne venait pas seulement de lui, mais qu'elle résultait de la supériorité militaire et économique incontestée des États-Unis. Qui veut répondre, Karim-Émile Bitar?
Oui, alors tout à fait. Alors, l'Amérique reste aujourd'hui la première puissance militaire du monde, incontestablement. Mais cet exceptionnalisme américain va vite se heurter aux réalités concrètes, aux réalités économiques. Il faut rappeler quand même que la dette américaine aujourd'hui s'élève à 10 000 milliards de dollars, 10 trillions de dollars. Ce qui signifie que l'Amérique a construit, a vécu à crédit pendant les 10 dernières années et a renforcé sa puissance militaire à un coût assez élevé. Lorsque Bill Clinton a quitté le pouvoir, l'Amérique avait un excédent budgétaire de 200 milliards d'euros par an, et aujourd'hui, George Bush laisse un déficit budgétaire cette année de 500 milliards. Donc on est passé d'un excédent de 200 milliards à un déficit de 500 milliards de dollars. Donc cette forte éclatement de la bulle immobilière, des bulles des assurances, montre que l'économie américaine est en fait assez faible. Les services productifs ont cru beaucoup moins que les services purement spéculatifs comme la finance, l'immobilier, l'assurance au cours des 15 dernières années, ce qui montre que les bases économiques ne sont pas du tout solides, contrairement à ce qu'avait dit John McCain pendant la campagne. Les fondamentaux de l'économie américaine ne sont pas aussi bons qu'on pourrait le croire, et cela accompagne donc l'enlisement militaire en Afghanistan et en Irak, et accompagne surtout la baisse du pouvoir d'attraction des États-Unis, la baisse de ce soft power. Le fait que l'Amérique faisait rêver à travers le monde, avait un pouvoir d'attraction sur les masses, sans avoir besoin d'avoir recours à la coercition, à la force, a beaucoup décliné pendant le mandat de George Bush, mais en cela, je dirais que ce n'est pas irréversible, et avec une politique bien menée dans les prochaines années, avec la personnalité de M. Obama, je crois que l'Amérique peut très vite reconquérir son soft power. Alors la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'elle pourra mettre à profit ce regain de popularité dans le monde entier pour se reconstruire solidement d'un point de vue économique, sociologique et politique? C'est la grande question des années à venir.
Alors l'image des États-Unis, elle a beaucoup pâti, Jonathan Weiss?
Oui, absolument. Je pense que c'est tout à fait le cas. Je pense que tous les Américains qui étudient le monde entier sont très conscients qu'ils voyagent un peu, ils se rendent compte que les États-Unis ne sont plus le pays auquel rêvaient beaucoup de gens avant l'administration Bush, que toute la bonne volonté que les États-Unis avaient gagnée après le 11 septembre a été perdue. Enfin, c'est un lieu commun de le dire, mais je crois que c'est tout à fait vrai. Je pense que l'Américain moyen, même celui qui ne voyage pas en dehors des États-Unis, est conscient du fait que son pays n'est plus respecté, c'est le mot qu'il va employer, respecté comme il était avant. Et je crois qu'il va mettre tout ça sur le compte de la politique de George Bush. Alors, il reste à savoir si l'Américain moyen va penser que la politique étrangère d'Obama est meilleure que la politique étrangère de McCain. Je pense que de toute façon que l'Américain, pour l'instant, ne se soucie pas trop de la politique étrangère des deux candidats.
Charles Depri.
On remarque quand même que dans le programme des deux candidats, dans leur programme de politique étrangère, tous les deux parlent, aussi bien Obama que McCain, de restaurer le leadership et restaurer l'image des États-Unis dans le monde. Donc il y a une prise de conscience par les candidats dans leur programme de politique étrangère de cet état de fait que les États-Unis ont une image détériorée, qu'ils sont moins acceptés, que leur exceptionnalisme est en perte de vitesse et que s'ils veulent à nouveau avoir de l'influence, il va falloir restaurer les relations, restaurer une coopération avec le reste du monde.
Restaurer le leadership, Richard Birdsworth, ça passe par quoi d'après vous?
Avant ça, je voudrais bien reprendre quelque chose que les autres ont dit. Premièrement, je crois qu'effectivement cet exceptionnalisme est fini. Maintenant, c'est une question de voir l'intérêt national des États-Unis avec d'autres intérêts dans une perception beaucoup plus globale des intérêts collectifs du monde. C'est là où se situe maintenant la question du leadership américain. C'est seulement les États-Unis qui peuvent le faire. La Chine n'est pas encore prête. La Russie a un intérêt beaucoup plus nationaliste. Le seul pays, État-nation, il faut toujours avoir des États-nations pour mener une politique globale. Le seul pays qui puisse le faire, c'est les États-Unis. Donc ça, c'est le défi. Est-ce qu'ils peuvent devenir un dirigeant du monde avec d'autres? Ce sera ce qu'on va voir dans les années à venir. Mais il faut dire une chose par rapport à ce qu'a dit Karim. Quand même, l'économie américaine est toujours très forte. Excusez-moi, mais c'est 22% du PIB mondial. Même s'il y a une crise extrêmement importante qui va restructurer le capitalisme américain et qui va donner un autre modèle peut-être pour le monde, on n'est plus dans le cas du modèle néolibéral, l'économie américaine est toujours très importante. Et on va voir par rapport à ce qui est l'investissement dans les technologies d'énergie à venir, que les États-Unis va jouer un rôle prépondérant, primordial.
Karim Émile Bitar, est-ce que les États-Unis peuvent diriger le monde avec d'autres et surtout est-ce qu'ils y sont prêts?
Je crois qu'ils peuvent tout à fait le faire, ils y sont prêts, ils en ont le désir, ils en ont le souhait, ils en ont la possibilité, mais il faut remettre en ordre la maison intérieure. Je crois qu'il est tout à fait vrai que l'économie américaine demeure la première du monde, mais les sociologues, les économistes qui étudient ça de près relèvent certains signaux faibles assez inquiétants. Par exemple, la mortalité infantile aux États-Unis est plus élevée que dans certains pays d'Europe de l'Est comme la Slovénie. On a noté pendant les 5 dernières années une chute de l'espérance de vie d'un Américain à la naissance, ce qui est quand même un signe assez frappant. Il y a quand même 42 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture médicale et on sait aujourd'hui que la santé est l'un des nouveaux relais de croissance. Donc il faudra remettre en ordre cette maison intérieure pour pouvoir jouer un rôle à l'étranger. Et je crois que cela est tout à fait possible, mais cela devra également aller de pair avec une remise en question de la politique extérieure des États-Unis. Parce que la question fondamentale, c'est, se pose la question aux États-Unis, why do they hate us? Pourquoi est-ce que nous sommes mal considérés à travers le monde? Et ils ont tendance, l'administration Bush a souvent eu tendance à répondre, ils nous détestent pour nos valeurs, pour nos libertés, pour notre démocratie. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant pour les gens qui connaissent un peu le Proche-Orient, les pays d'Afrique, l'Amérique latine, etc. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « je n'aime pas l'Amérique à cause de ses libertés, de sa démocratie ». Ce qu'ils reprochent aux États-Unis, c'est une discordance entre la parole et les actes, c'est-à-dire de prêcher la démocratie d'un côté et de soutenir de l'autre côté certaines dictatures, de soutenir certains coups d'État, comme ce fut le cas depuis les années 40-50 dans le tiers-monde. Donc c'est cette fondamentale discordance entre les grands discours qui sont tout à fait appréciés, qui ne sont pas rejetés, ce ne sont pas les valeurs américaines qui sont rejetées, et la politique extérieure au quotidien qui est, elle, très très mal vécue.
Géopolitique, le débat. Quel monde George Bush laisse-t-il après 8 années à la Maison-Blanche? Quelle image pour les États-Unis? Nous retrouvons nos invités, Charlotte Lepri et Karim Émile Bitar de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Richard Birdsworth de l'Université américaine de Paris et Jonathan Weiss de Colby College, dans quelques minutes, juste après le prochain journal. À tout de suite.